Vous écoutez France Musique.
Bonjour à toutes et à tous, c'est le matin des musiciens du mercredi. Et bonjour à vous, public qui m'avez rejoint très nombreux ici au studio 106 de la Maison de la Radio à Paris pour un atelier qui va être consacré à une œuvre dont je suis fou amoureux. Vraiment une des plus belles que je connaisse de ce compositeur, une des plus secrètes parce que, au fond, peu jouée, même par les grand chopinien. Elle ne figure pas tant que ça au programme des récitals. Mon maître l'a joué, cette œuvre, dans le cycle auquel elle appartient, cycle de 4 pièces. Alors ça pourrait être les 4 ballades, non, ça c'est très connu et très joué. Les 4 scherzi, non plus. Les 4 impromptus, voilà, touché. Le deuxième impromptu en fa dièse majeur de l'opus 36, une œuvre merveilleuse pour moi. Une des plus, je mets beaucoup de guillemets, chopiniennes. Et nous tâcherons de révéler pourquoi. Et je vous propose, pour comprendre l'originalité, la singularité et la beauté spécifique de cet impromptu, de l'entourer de ses deux frères. Alors je mets à part la fantaisie impromptue en do dièse mineur qui a été écrite bien avant les 3 suivants, les 3 impromptus qui ne sont pas précédés du mot fantaisie. Alors nous allons entendre le premier impromptu en la bémol majeur, suivi du deuxième en fa dièse majeur et du troisième en sol bémol majeur. C'est exactement le même ton sur le piano, c'est la même note, fa dièse ou sol bémol, la même touche noire, mais ça s'appelle fa dièse majeur avec des dièses à la clé, et ça s'appelle sol bémol majeur avec des bémols à la clé. C'est le même ton, un ton très chopinien, nous verrons aussi pourquoi. Je ne vous dis pas le nom des pianistes, ce sont des versions assez anciennes que je vous propose d'écouter. Il y a une petite surprise, évidemment, et c'est pour ça que je vous laisse deviner. Écoutez attentivement les 3 premiers impromptus de Chopin. Thank you. Nous venons d'entendre trois merveilles, me semble-t-il, et interprétées. Là, je n'en dis même pas plus, vous l'avez entendu vous-même. Il s'agit des trois premiers impromptus de Chopin, le premier en la bémol majeur, opus 29, le deuxième opus 36 en fa dièse majeur, et le troisième en sol bémol majeur, opus 51. Alors, au jeu des devinettes, j'espère que vous avez trouvé, la première version était très ancienne, 1922. Le pianiste avait 45 ans, Alfred Cortot, avec son charme, son élégance, son humour, cette légèreté de touche à nul autre pareil. Et les deux suivants étaient interprétés, et pour moi, avec une grâce, une poésie, une sonorité également, d'une beauté sidérante. C'est Wilhelm Kempff, ce fameux double album Chopin qu'il a gravé en 1958 pour Decca à Londres. Il n'était absolument pas connu en 1958 quand il est allé en Angleterre. Personne ne le connaissait, même chez Decca. Il n'avait jamais joué en Angleterre ou il y a fort longtemps. Et il a stupéfait toute l'équipe technique parce qu'il arrivait le matin, il jouait toutes les œuvres d'un bout à l'autre. Il ne voulait pas faire de montage. Et alors on lui disait, mais maestro, est-ce que là on pourrait reprendre? Il dit, non, je rejouerai tout demain. Et alors il revenait le lendemain et il rejouait d'un bout à l'autre toutes les pièces. On lui disait, ah, mais on a encore peut-être une petite rustine. Eh bien, je rejouerai encore demain. Et voilà comment s'est fait ce disque miraculeux. Je vous ai déjà fait entendre d'ailleurs la berceuse, je vous ai fait entendre ce deuxième impromptu sous ses doigts, mais jamais le troisième. Et j'étais heureux de vous refaire découvrir Kempff, dont on a oublié à quel point il était aussi un grand chopinien. Son dernier récital à Paris, ou son avant-dernier récital, il a joué d'ailleurs les quatre impromptus, ces trois que nous avons entendus, et la fantaisie impromptue qui est un petit peu antérieure de 3 ou 4 ans, puisque les deux premiers sont de 1838, le troisième impromptu est de 1842. Là, dans la dizaine des opus 50, on commence vraiment à gravir les chefs-d'œuvre, hein, puisqu'il y a la quatrième ballade qui va arriver, les grandes Mazurka de l'opus 57, la Polonaise héroïque de l'opus 53, la Berceuse de l'opus 57, la Sonate, la troisième en si mineur, opus 58, donc voilà, on est opus 60, la Barcarolle. Je reviens à Alfred Cortot. Dans son édition Travail des œuvres de Chopin, cette monumentale édition qui a servi à tant et tant de générations, tant de pianistes dans le monde entier, pas seulement en France, car l'influence de Cortot a été absolument mondiale, jusque dans les contrées les plus reculées de la Russie. On connaît et on vénère Alfred Cortot par le sens de la sonorité, par cette liberté de ton qu'il a, cette fantaisie. Voici ce qu'il écrit dans sa petite préface. « À l'improviste, tel est, en nous référant au lexique, la traduction des mots latins « impromptu ». Ce caractère d'improvisation, on entend bien qu'il ne saurait être qu'illusoire dès qu'une rédaction intervient qui donne au contour musical la fixité des choses écrites. Et les exquis raffinements de forme et d'écriture dont Chopin agrémente les quatre brèves compositions auxquelles il donne ce titre ne laissent point de doute sur la qualité des recherches dont ils furent l'objet. Cependant, l'esprit d'interprétation qui leur convient y demeure avec une grâce incomparable, celui du premier jet et de la découverte. Rien n'y paraît prémédité ou volontaire. L'abandon, l'imprévu, le naturel en sont les privilèges délicieux. Et la stylisation de l'esquisse, toute parfaite et proportionnée qu'elle soit, y laisse néanmoins subsister l'impression de ne s'infléchir qu'à l'inspiration du moment. La musique y devrait paraître en quelque sorte, naître sous les doigts de l'exécutant. En vérité, il me semble que s'il y a vraiment une fantaisie impromptue dans ces quatre-là, c'est bien le deuxième. C'est bien celui en fa dièse majeur qui va nous occuper aujourd'hui. Parce que les trois autres, que ce soit la fantaisie impromptue en do dièse mineur, qui est un peu antérieure, ou les deux que je vous ai fait entendre, le premier et le troisième, obéissent à une forme extrêmement classique, ce qu'on appelle ABA, une première section, dans les deux cas relativement fluide, assez rapide dans le premier, un peu plus allongé, un peu plus nonchalante dans le troisième, et puis la partie centrale, solennelle et chantante dans le premier impromptu, plus plaintive, plus mélancolique dans le troisième. Dans le deuxième impromptu, on n'entend pas de réexposition. on entend d'abord un jeu très très subtil de tonalité, on va y revenir, de glissement de ton, et puis on entend une sorte justement d'improvisation qui peu à peu prend des contours, des couleurs, des caractères différents, joue les volte-face, les coups de théâtre. C'est un petit théâtre, pas un grand théâtre. On n'est pas dans l'épique, même si on frise l'épopée dans la partie centrale, le côté un peu martial, on va y revenir. Mais en tout cas, c'est un impromptu heureux qui glisse entre les doigts, littéralement, avec ce côté fuyant de la dernière partie, ces envolées de triple croche. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait merveilleux à jouer, parce que c'est très agréable et admirablement écrit pour le pianiste. Alors ce début, il est déjà presque une nouveauté dans l'œuvre de Chopin. La main gauche va jouer pendant quelques mesures, 6 mesures, des noirs. C'est andantino, donc pas trop allant, mais tout de même pas lent. Et en soi, elle est déjà sublime, cette main gauche. Comme chaque fois que je vous parle des mains gauches de Chopin, je ne cesse, moi, de les admirer et de les chérir, parce que dans l'équilibre, on sent qu'il y a quelque chose de frêle, mais en même temps si pur. Déjà, cette octave grave de fa dièse, et puis ce jeu de résonance, de vibration sur ce fa dièse, ce moelleux du fa dièse, et puis... des intervalles assez allongés, distants, neuvième comme on dit, sixte, septième, tierce, alors plus réduit. Et puis la main gauche. Ah, j'ai fait un lapsus d'ailleurs, pas la main gauche. La partie grave de la main gauche, avec ses do dièses, obsessionnel. Alors, je vous explique harmoniquement, parce que c'est aussi affaire d'harmonie, c'est impromptu, et tout au long de l'œuvre, la tonique, c'est le ton de fa dièse majeur. On commence sur un fa dièse majeur, premier degré de la gamme de fa dièse majeur, fa dièse, tonique, premier degré. Et puis, le do dièse, c'est le cinquième degré de la gamme, fa dièse, sol dièse, la dièse, si, do dièse. Et le do dièse, le cinquième degré, c'est ce qu'on appelle la dominante. C'est-à-dire que si on joue cet accord-là appelle la résolution sur le premier degré, la tonique fa dièse majeur. Et donc Chopin ne fait que du tonique, dominante, c'est-à-dire le béaba de la musique, si j'ose dire. Si je voulais vous donner un exemple très frappant de tonique dominante, eh bien la fin de la 5e symphonie de Beethoven, vous savez. Voilà. Ou dans le concerto L'Empereur, où on a énormément de dominante tonique ou tonique dominante. Bon, voilà. Mais Chopin, alors lui, c'est quelque chose du bout des lèvres. On a l'impression qu'il tire un fil d'Ariane, et c'est quelque chose qui ne va jamais s'interrompre. Et c'est d'ailleurs noté avec une grande ligne legato, quelque chose qui semble immuable, intemporel, presque sans tempo, même si ce sont des noirs. Donc on aurait pu croire que la main gauche à elle seule dessine une cantilène. Or, il n'en est rien, puisque la cantilène va surgir presque à l'improviste. Alors, je reprends ce mot, improviste, impromptu, presque à l'improviste, une fois que, je dirais, l'expiration est naturelle. Ces six mesures, il faut les jouer d'un seul tenant, un seul coup d'archet, les gâteaux, jusqu'à extinction ou expiration. c'est exactement le même dessin, les mêmes six mesures, avec le même jeu dominante tonique, cinquième degré. Voilà, mais avec le sortilège de la cantilène chopinienne. C'est-à-dire à la fois quelque chose de très intime, de pas du tout extraverti, comme chanter pour soi-même, comme si on prenait les repères, comme si on prenait la mesure de l'espace où nous sommes. Où, d'ailleurs, il n'y a peut-être pas d'espace, c'est peut-être juste une cantilène pour soi-même, bouche fermée. Il n'y a pas encore le grand chant, le bel canto chopinien issu de Bellini et autres compositeur d'opéra, Donizetti et autres. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très très doux, très feutré. Et cette manière qu'a Chopin de prendre connaissance aussi de la tonalité, fa dièse majeure, ce jeu tonique dominante, cette suspension, ce côté pas complètement affirmé, alors que paradoxalement, tonique dominante, je vous l'ai montré chez Beethoven, a ce côté extrêmement masculin et affirmé, et définitif, chez Chopin, pas du tout. Il en fait quelque chose de fuyant, quelque chose d'indéterminé. C'est quand même le comble pour une des choses de base de l'harmonie occidentale. Eh bien, on a un petit peu ce jeu dans la barcarolle qui va venir quelques années après, parce que la barcarolle est également dans le ton de fa dièse majeure. Chopin aime les tons chargés de touches noires. Fa dièse majeure, il y a six dièses à la clé, donc il y a beaucoup, beaucoup de touches noires. Et Chopin aime quand il y a beaucoup de touches noires parce que sa main va se placer naturellement sur le piano et pas du tout d'une manière perpendiculaire comme dans la musique classique, Mozart, Beethoven, voire Schubert, mais au contraire, vers l'oblique. La main droite va regarder un peu plus vers la droite, la main gauche va regarder un peu plus vers la gauche du clavier, et on va glisser l'index, le majeur, l'annulaire vont glisser sur les touches noires, et le doigt central de la main de Chopin, c'est pas du tout le majeur, comme dans une main normale, c'est l'index. C'est l'index qui est naturellement placé au centre de la main. Et dans la barcarolle, on a le même sens de la suspension sur ce fa dièse majeur. Alors ça commence sur la dominante, do dièse, et le do dièse continue toujours à vibrer, il y a un instant de silence, et puis la résolution, fa dièse majeur. Et un petit peu comme dans l'impromptu, une sorte de no man's land, de découverte des lieux sur lequel accompagnement va surgir la cantilène. Voilà, dans ce ton très très soyeux et lumineux en même temps qu'est fa dièse majeur. Un exemple similaire avec une œuvre là aussi contemporaine de la barcarolle, c'est la berceuse. On va écouter juste le début sous les doigts de Magaloff. Même chose, même prise de conscience de l'espace, même jeu sur la tonalité, premier degré, cinquième degré, dominante, tonique, tonique, dominante. Écoutez, écoutez. Le tout début de la berceuse de Chopin, où nous avons, vous l'avez entendu, immuablement la tonique. Là, on est en ré bémol majeur. Il y a beaucoup de bémols. Là aussi, beaucoup de touches noires. Ce sont des tons fa dièse majeur, sol bémol majeur, ré bémol majeur. C'est les tons fétiches de Chopin. Combien de nocturnes, d'impromptus, de passages dans les ballades, dans les sonates, la sonate en si bémol mineur, la sonate funèbre, si bémol mineur, cinq bémols à la clé, beaucoup de touches noires. La marche funèbre avec... le passage central en ré bémol majeur où ça glisse complètement, on se laisse complètement aller sur le clavier. D'ailleurs, on met des doigts similaires, c'est-à-dire on met 4-4, on glisse d'une touche noire à une touche blanche. On n'articule pas, on laisse complètement glisser la main et on met 2 et 2, deux fois l'index, on glisse d'une touche noire à une touche blanche. Ça, ce sont vraiment des tonalités chopiniennes parce qu'il y est à son aise au niveau physique, physiologique et j'oserais presque dire sensoriel du coup, parce que ça dégage des espaces de sensations vraiment incroyables et inédits. C'est tout à fait lui qui a inventé ce rapport fusionnel avec le clavier, vraiment fusionnel, avec évidemment des truchements, la voix, l'amour du chant, du bel canto bien entendu, mais cette relation qu'il établit avec son instrument quand il est à son affaire, quand il y a des tonalités comme celle-ci, diésées ou bémolisées fortement. À ce moment-là, on est vraiment dans son terrain, on le sent nous-mêmes. Enfin, on se glisse dans la peau de Chopin, vraiment. On se dit, mon Dieu, mais quel plaisir sensuel cet homme avait de jouer du piano quand il est dans ces tonalités-là. Parce que simplement, il glisse. Il devait avoir un toucher d'une beauté stupéfiante, hein, certainement, Chopin. Et donc, pour revenir à l'impromptu, donc, on a tout ce début, comme un fil d'Ariane, je vous l'ai dit, qu'on tire doucement, sans forcer. Et le chant pas trop fort. Brève modulation. Petite fioriture, très belle cantiste. Et on reprend en variant un peu, fa dièse majeur, immuable, calme. Alors, Chopin sent qu'il est allé au bout de son idée et il va ouvrir l'espace avec une tendresse qui vous étreint. Et voilà, c'est tout. Il referme et de nouveau, fa dièse majeur. Dominante, tonique. Dominante, tonique. Dominante. Suspension sur la dominante, le do dièse, et un grand jeu suspensif avec cette fois, si j'ose dire, une ouverture à l'orchestre. On était dans quelque chose de très ténu. Le piano comme confident, ou alors un trio à cordes, un trio à vent, enfin quelque chose en trio, puisqu'il y a deux voix à la main gauche et puis la cantilène. Donc, trois voix, pas plus. Et puis, tout à coup, on ouvre les fenêtres. On sent Chopin être complètement libre sur son piano. Et le côté vraiment d'improvisation apparaît dans toute sa splendeur dans ce passage. Je parlais d'orchestre, j'ai l'impression d'entendre un ensemble à vent avec des flûtes, des hautbois. Un timbre argentin. Et puis maintenant, un passage de relais aux cordes. Maintenant, on a quelque chose qui ressemble à une sonorité de quatuor ou de quintette à cordes. Vous noterez la beauté intrinsèque de chaque accord. Je vais les jouer même plus lentement. C'est un travail d'orfèvre. Et c'est ce que dit Cortot, certainement beaucoup, beaucoup de recherches. Et on sait que Chopin a passé beaucoup de temps sur cet impromptu. Il n'était même pas sûr d'avoir réussi son coup, si j'ose dire. Parce qu'il écrit à son ami Fontana, il lui dit « Oh, je viens de terminer un impromptu, mais je ne suis même pas sûr s'il est bien fameux. C'est encore trop neuf pour que je puisse le juger. » Mon Dieu, on aimerait que tous les compositeurs aient eu cette inspiration et cette recherche qui mène à ce résultat. C'est confondant de beauté, d'une part, mais d'équilibre. D'équilibre, de dosage, le dosage de ces accords. Je me souviens d'une émission que j'ai faite il n'y a pas si longtemps sur John Field, il y a un an à peu près, où je démontrais que, évidemment, les accords de John Field, ils étaient beaux, mais c'était simplement banal, à côté des trouvailles chopiniennes. Hein, par exemple, je vais vous donner juste un petit exemple, celui-là. Il commence avec ces cinq notes-là. Et puis ensuite, donc, on passe de ça à... Mais un John Field serait resté avec la même main gauche. Donc on aurait eu... Avec Chopin, on a... Il est clair... Et il allège toujours les textures. Au lieu de... Les voix intérieures. Ça me fait penser, ce passage vent-corde, enfin tel que je l'imagine, ça me fait penser à la fantaisie opus 49 qui va venir. Parce qu'on a un petit peu le même sens de l'espace et des registres. Ça commence, la fantaisie, par une sorte de marche, tempo di marcia d'ailleurs, comme si c'était joué au contrebasse et violoncelle. Et on a, me semble-t-il ici, une vraie couleur d'instrument avant, de hautbois par exemple, soutenu par d'autres instruments avant. Retour aux cordes. On voit très bien les coups d'archet, c'est très figuratif. De nouveau les vents. Les cordes qui répondent. Etc., etc. Ça, c'est une chose très singulière chez Chopin, ce sens aigu de la registration. Et donc voilà pour la première section. Il ne s'est pas passé grand-chose. Au niveau harmonique, deux vagues modulations, très courtes. Un jeu tonique dominant, je vous l'ai expliqué. Une registration pour éclairer, donner un petit peu d'air à cette cantilène assez feutrée, assez intérieure. Et on va basculer dans un paysage tout à fait inconnu et surtout inattendu. Là encore, le côté improvisé et le côté imprévu, hein, les deux sens de ce mot. C'est comme s'il refermait la première page d'un livre, voilà, avant d'ouvrir la suivante. Il y a même un point d'orgue ici, c'est-à-dire un point de suspension, et le basculement va être immédiat et pianissimo sostenuto, donc très piano, très doux et soutenu en même temps. Donc... Ça, c'est quand même inattendu après cette première partie et ce début, cette venue de si loin, la chose semble absolument inexorable. Et en même temps, on ne se sent pas écrasé. Il y a comme quelque chose de majestueux, une solennité, c'est ré majeur. Mais enfin, déjà, on était dans ce ton radieux, lumineux de fa dièse majeur, et on va passer le glissement. Et puis, des timbales, peut-être, au fond de l'orchestre. J'ai d'ailleurs fait le crescendo trop tôt. Il y a sept mesures sans aucun crescendo. Et seulement là. C'est noté forte et la main gauche qui était à une seule voix. Cette fois, on a l'impression qu'il y a le renfort de la grosse caisse ou de deux timbales en même temps. Ce sont des octaves ou peut-être le soutien dans l'orchestre des contrebasses. Alors pour nous, c'est un petit peu acrobatique, tous ces sauts d'octaves. Et puis, sur cette basse obstinée, cette scansion, cette marche sostenuto, on a les cors, les trombones, les instruments à cuivre. Il faut rester très mystérieux, très peu ouvrir le son. Seulement ici. Comme si on déambulait dans des rues, qu'on entendait au loin ce convoi, la musique de ce convoi, de cette procession majestueuse, et que tout à coup, on arrivait sur l'endroit où ça se produit, au détour d'un angle de rue. En une mesure, le crescendo. Et ça enfle fortissimo, fortissimo crescendo. Les sauts deviennent de plus en plus acrobatiques pour la main gauche parce qu'on avait ces intervalles-là. Et alors maintenant, c'est... Et puis, il y a une modulation qui, je dirais, donne encore plus d'éclat, encore plus de puissance, encore plus d'impact, de présence à ce qui se produit, à ce dont nous sommes témoins, cette modulation, cette ouverture en sol majeur. Ici. Et il y reste Chopin, non seulement crescendo après avoir écrit déjà fortissimo, mais il reste sur ce sol majeur. Alors on va s'arrêter un petit peu sur ce passage, ce côté marche. On l'a bien sûr dans la fantaisie, là je vous ai joué le début. Bien sûr, on l'a dans un certain nombre d'œuvres de Chopin, la polonaise militaire évidemment, mais dans la polonaise héroïque, me semble-t-il, avec ces octaves qui deviennent presque effrayantes dans la partie centrale de la polonaise héroïque, il me semble que ce côté martial et ce côté explosif que peut de temps en temps prendre le piano de Chopin peut nous rappeler ce qui se passe au centre de ce deuxième impromptu. Écoutons ce passage très fameux de la polonaise héroïque interprété par Paulini en 76. section centrale de la Polonaise héroïque de Chopin, l'opus 53, sous les doigts de Maurizio Pollini, les doigts d'acier de Pollini. Et ce qui est frappant dans ce travail sur l'idée de la marche, l'idée de la procession, l'idée de quelque chose qui avance, d'irrésistible, d'irrépressible, d'inexorable, c'est le même travail harmonique. Vous noterez que on partait de l'idée que dominante tonique, on en a comme ça à profusion dans la première section, mais il ne fait pas autre chose, Chopin, quand on arrive dans la section martiale. Là, c'est tonique de ré majeur, premier degré, mais ici... cinquième degré, premier degré, dominante tonique, dans la Polonaise héroïque, exactement la même chose, on est en mi majeur, et puis... Je résume, hein, mais c'est ça, c'est la même chose, dominante tonique, avant la modulation en mi bémol majeur. Donc c'est, chez Chopin, presque un procédé. Mais quel effet incroyable. Et alors... Ce qui est assez piquant, parce que Chopin, tout de même, quand on fréquente son œuvre, on est frappé par le fait qu'il se cite rarement et il reprend rarement les mêmes éléments motiviques. On a des analogies, on a des, évidemment un style, des procédés. Là, je viens de vous en citer un. Mais il y a un renouvellement mélodique et motivique constant chez Chopin. Constant. Eh bien là, dans cette partie centrale, il se cite. Alors je vais vous jouer le passage et on écoutera ensuite quelque chose que vous connaissez bien, où il y a exactement les mêmes accords, les mêmes notes, exactement pareil. Donc... bien. Alors écoutons l'autre œuvre qui est citée ici dans cet impromptu. Au pianiste de glisser un petit peu ses doigts d'un si bécart de l'impromptu. Ah. C'est exactement les mêmes accords. Ça, c'est rare chez Chopin, vraiment. Mais quand on le trouve comme une réminiscence et quand on sait le sens aussi de l'étude révolutionnaire, hein, le texte caché, il y a quand même quelque chose qui est très frappant, d'autant plus frappant que tout le passage dans cette section de l'impromptu est en ré majeur, il y a quelque chose d'explosif, mais pas de dramatique, pas de sombre, et que le passage, le seul passage de l'étude révolutionnaire qui vire au majeur, c'est précisément celui-là. Tout le reste de l'étude est en mineur, en mineur, en mineur. Et il y a cet élan, cette avancée, cette poussée en majeur et que reprend, un tout petit fragment que reprend Chopin dans cette section de l'impromptu. Alors ce qui est très bouleversant, très prenant, et quand on joue cette œuvre, il y a quelque chose de profondément choquant au sens littéral, c'est quand on arrive à la fin de cette section en octave et en accord... comme un essoufflement. Ces octaves qui sont notées liées par Chopin. On ne sait pas comment reprendre ses esprits parce que la charge a été si héroïque, vraiment. Hein. fait qu'il y ait des sauts et que on referme littéralement la boîte à souvenirs, parce que finalement c'est un surgissement, ça peut être la mémoire qui a fait surgir un souvenir, le souvenir de ce qui est attaché à l'étude révolutionnaire, puisqu'il y a cette citation. Et on referme dans l'essoufflement physique qu'a provoqué même la renaissance de ce souvenir, le surgissement de ce souvenir. Avant la suite, avant qu'on bascule dans ce qui va se produire et qui est apaisant, que de désillusions, que d'amertume, que de langueur. Il y a plus qu'une mélancolie dans ces deux mesures. Ce n'est pas a cappella, mais il y a quelque chose comme ça qui se referme, un espace qui est littéralement enfoui de force, de force. On ne veut pas y croire à la catastrophe. Et on l'enfouit si profond qu'on veut faire revivre à tout prix les jours heureux. Et on le dit pianissimo. C'est ça qui me bouleverse encore plus. C'est que Chopin aurait pu ici jouer la carte de l'ouverture, de jouer ça vraiment très chanté. Mais pas du tout. Il choisit au contraire l'anticlimax. L'anti-expression, il n'y a pas une nuance écrite par Chopin autre que ce pianissimo pendant 6 mesures entières. Il y a des legatos, tout est lié. La main gauche, le fil d'Ariane qu'on retrouve, il avait été perdu. On avait perdu ce fil d'Ariane, on avait été dessaisi de ce fil d'Ariane avec cette séquence centrale. Et tout à coup, on le retrouve. Mais légèrement différent, plus palpitant, plus incertain, indécis, plus fuyant, plus glissant, plus secret, parce que... Alors, entre parenthèses, c'est plus le même ton qu'au début. Au début, c'était... Et donc, comme il y a ce zeste de nostalgie, et en même temps, ce côté glissant, ce mouvement qui revient, cette palpitation qui se devine. Alors, d'abord, les accords, il les ventile, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir... Il les ouvre, il les déploie, et puis on passe de fa dièse majeur sur les touches noires aux touches blanches de fa majeur. C'est une main gauche, mais d'une telle beauté. Enfin, il y a 3 notes, hein, vous l'entendez, mais pour moi, avec ces syncopes qui s'intègrent dans la ligne legato, parce que tout ça est noté legato par Chopin. Il y a des lignes entières. C'est très, très beau quand on regarde non seulement la partition éditée, mais quand on regarde le manuscrit, on voit ce trait de plume qui s'élance là sur des mesures. Et d'ailleurs, il est même si peu sûr de son geste, Chopin, qu'il est obligé de quelquefois de reprendre le trait où il n'y a plus d'encre au bout de sa plume, et il reprend le trait pour continuer cette ligne legato. Et alors, justement, venu de ce passage si tendu, on ne sait pas du tout ce qui va se produire, et ce coup de théâtre pianissimo. Thank you. trouve le fa dièse majeur. Tout ce passage, c'est totalement magique, évidemment, parce que tout est feutré, tout est non-dit, non-expressif. Enfin, ce serait d'un déplacé, je trouve, ce serait meurtrir cette musique que de jouer ça expressif, de vouloir exprimer, alors que tout est dans cette teinte, dans cette demi-teinte qui va tellement, tellement inspirer Fauré. Moi, je trouve que tout ce passage annonce Fauré. Les premiers nocturnes, les premières barcaroles, les arabesques foréennes, elles viennent de là, de cette main gauche mouvante, palpitante, mais palpitante pas, palpitante à la Schumann. C'est quelque chose de beaucoup plus secret, pudique. La modulation, une trace de mélancolie, la mineure, on retrouve la petite vocalise bel cantis, et puis l'ouverture, ah, la dominante, comme la barcarolle, la dominante de fa dièse majeur, le do dièse. C'est un passage euphorique, euphorique. C'est tous ces triolets, cette félicité qui atteint Chopin. On reste encore intérieur, parce qu'il y a les pages qui vont suivre avec ce déluge de grappes de triple croche qui vont balayer le l'aigu et le médium du piano. Mais il y a une dégustation de ce fa dièse majeur, une jubilation. On savoure ici. Et ce que fait Chopin avec deux notes, parce qu'il n'y a pas un accord. Si je joue sans pédale et d'une manière un petit peu comme ça décantée, voilà, ça c'est pas très beau comme ça, mais dès qu'on met la pédale et dès qu'on trouve la courbe, le galbe de cette phrase, là encore, tout est réuni sous des lignes legato, sur des lignes et des lignes et des lignes. Là, nous avons un ensemble de 9 mesures entièrement réunies sous un seul legato. Et comme ce tri, ce simple petit tri, a quelque chose de frétillant, de frais, de joyeux, de retrouver notre cher fa dièse majeur, ou que Chopin retrouve son cher fa dièse majeur. Aussi le travail sur les intervalles qui est proprement sublime parce que il travaille sur des intervalles très conjoints et puis peu à peu il va ouvrir et ici c'est conjoint même ici mais il y a une féminité dans cette courbe et puis on ne s'arrête pas une seule ligne. Il ne faut pas faire de rubato, il ne faut pas faire des chichis et rendre les choses expressionnistes. Il faut se laisser guider par ce fil d'Ariane, justement, ces triolets. Parce que voilà, c'est un mouvement de triolets qui s'est mis en route à partir de là, par la main gauche, et qui ne va plus s'arrêter pendant cette section. On se prend à son propre jeu, c'est régénéré par le triolet lui-même, qui donne la direction, qui donne le mouvement, et puis cette joie inextinguible qui semble s'emparer du sujet, s'emparer des motifs. Je vous parlais de dégustation, oui, cette ferveur, cette exaltation. Thank you. qui est magnifique dans cette arrivée, ce paysage qui s'ouvre, enfin cette étendue. Tout à coup, les grands espaces, c'est l'air, l'oxygène, cette volubilité, ce babil même, toutes ces triples croches, là, ces volées de triples croches, comme des glissando. Et ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a entendu avant, c'est-à-dire il n'y a même pas le thème du début, c'est juste un jeu. Il y a un côté complètement ludique, complètement libéré, libre. Il y a à la fois de la griserie, de la joie, de la bravoure, parce qu'il y a le geste du pianiste tout de même, toutes ces notes, ces myriades de notes, cette vélocité, mais en même temps il y a ce côté, alors cette main gauche un peu presque bonhomme, hein. Toujours avec d'ailleurs dominante tonique, hein, il n'a pas oublié. Elle est très belle, cette main gauche, mais à la limite, c'est quand même cette main droite qui explose forte. C'est tout de même noté forte avec des crescendo. Et puis, il y a toujours l'idée de plus haut, plus haut, plus haut, plus loin, plus vite. Chaque fois, alors on monte d'abord jusqu'au ré dièse. On redescend. On va maintenant jusqu'au mi dièse. On redescend. On va maintenant aller jusqu'au sol dièse. On descend. On va aller maintenant jusqu'au la. Et puis maintenant, on va aller jusqu'au... On va faire un grand saut. Mi dièse de l'extrême, extrême aigu des pianos de l'époque. Et puis alors, on redescend, mais on déboule. Enfin, c'est vraiment comme une boule de neige qui glisse, qui glisse, qui glisse. Ça me rappelle d'ailleurs l'impromptu de Schubert. Hein. Hein, le côté, on se laisse complètement aller. On n'en a rien à faire du reste. Hein. On est en liberté. Il y a ce côté complètement jubilatoire et juste légèrement tenu par la main gauche, si on peut. Mais toutes ces fusées, il faut pas du tout se priver de les lancer, parce que là, on est vraiment, même si le passage est assez périlleux, assez délicat, et puis tous ces intervalles un petit peu différents, même s'ils sont conjoints, on a l'impression qu'on peut s'en mêler les doigts à jouer ce passage, mais il faut pas se priver de lancer, de donner du mouvement, de la direction, en un mot, de la liberté. Sans poids. La main gauche qui essaie d'en placer une, là. Ça me rappelle un passage, même deux passages, dans le final de la sonate en si mineur, opus 58, qui est à venir. Elle n'a pas été encore composée. Mais vous allez écouter ces passages, on va les écouter successivement. C'est très proche, cette main droite, ces arabesques, cette virtuosité, non pas débridée, assumée, mais avec une grâce, une élégance, un charme, un chic fou. Écoutez, c'est dans le final. Thank you. vous avez entendu les deux passages, alors juste avec au centre le retour du thème très héroïque du final de la sonate opus 58 de Chopin, les deux passages complètement jubilatoires, ailés. Et alors, comme par hasard, c'est dans le même ton la première fois. Vous savez, l'impromptu de Chopin, fa dièse majeur, la sonate en si mineur, avec la même main gauche, un simple soutien harmonique. C'est vraiment comme une petite chanson, hein. Et là encore, il y a beaucoup, beaucoup de dièses, hein, fa dièse majeur, si majeur, beaucoup, beaucoup de dièses, donc beaucoup de touches noires, donc des glissades en vérité, hein. Voilà. Donc ça, vraiment, ce sont des passages qu'il faut ne pas se priver de jouer avec beaucoup, beaucoup de vélocité, de légèreté, parce que je crois que c'est complètement assumé et que c'est la fin logique de cet impromptu. On a tellement attendu. Et cet épisode majestueux, solennel, processionnel, en ré majeur avec cette marche, cet épisode n'a fait que retarder un peu plus. Il a fait ressurgir le souvenir, on l'a enfoui bien vite pour se griser littéralement dans le fa majeur retrouvé, le fa dièse majeur ensuite, et puis cette giclée de triple croche, et puis tout va vraiment se terminer. Là aussi, très foréen. Je pense que Fauré a dû jouer, connaître très bien le langage, le procédé, la manière d'écrire de Chopin, de cet impromptu, parce qu'on entend tellement ce qu'il en a fait, et notamment toute la partie finale, conclusive de ce passage en triple croche. Ici. Ça me fait vraiment penser à la fin du deuxième nocturne, hein. Lui aussi en triple croche avec beaucoup de touches noires, hein. Voilà, je vous parlais de Babil tout à l'heure, de volubilité. Et pour reprendre aussi un mot de Messiaen appliqué à un de ses regards, je crois le baiser de l'enfant Jésus, dans un poudroiement sonore. Et là, Chopin note un long diminuendo. On doit s'éteindre, s'évanouir. On doit rester plus rien du tout que de la poussière, hein. La poussière de lumière. D'ailleurs, il n'y a même plus rien du tout, on est juste là. Voilà, et c'est suspendu. Et puis, mystérieux, comme un appel, le postlude. Seule partie répétée à l'identique. Parce que on avait bien eu deux fois cette section, mais une fois forte, une fois pianissimo comme un écho. Là, on a vraiment le retour à cette scène. Comme c'est beau d'ailleurs ce travail sur le rythme ou sur la valeur auquel Chopin se livre, parce qu'il commence le nocturne avec des noirs, un simple débit de noir, c'est une mesure à quatre temps, 1, 2, 3, 4, 1, avec cette succession, cette cantilène. Voilà, et puis il va passer au croche, c'est-à-dire un petit peu plus rapide. D'un seul tenant, de nouveau, réunis par une liaison. Et les croches donnent un côté beaucoup plus mouvant, beaucoup plus indécis, beaucoup plus glissé, improvisé. Alors, en admettant que le passage en ré majeur martial est comme une sorte d'excroissance au récit tel qu'il existe, ce coup de théâtre, ce basculement en ré majeur, donc on retrouve, si j'ose dire, l'élément de noir, 1, 2, 3, 4, mais avec un rythme nouveau, le rythme de la scansion, que l'on avait entendu, mais dans un registre tellement différent, ici, hein, qui est vraiment comme la fantaisie, et qu'on a ici. Voilà. Et puis, de noir, on est passé aux croches, des croches, on va passer au retour, quand on arrive en fa majeur, on arrive sur des triolets. Et puis, la grande ouverture, le grand passage brillant, et des triples croches. Alors, il saute, si j'ose dire, l'épisode de double croche, mais voilà, il y a cette idée aussi de vitesse, de débit, d'allure, d'une allure de pas tranquille, de déambulation. Peu à peu, les choses vont s'alléger, décoller. Quelque chose pouvait apparaître comme terrien. Le pas, la marche, propice aux rêves, aux pensées, à la songerie. Et puis, on décolle, et on va comme ça vers des azurs malarméens. Enfin, là, on est tellement dans la griserie, vraiment, et dans le ciel. Et puis, je vous ai montré, on monte. Enfin, c'est vraiment le vol de l'albatros. Hein. Comme elle est étrange, cette fin, cette toute fin de l'impromptu. Parce que il égrène à nouveau cette section, je vous l'ai indiqué. Puis il passe dans le registre corde, le registre quatuor, quintette à cordes. Voilà, et on pourrait vraiment penser que la messe est dite. Hein. Voilà. Mais il y a comme ce côté fier chez Chopin, vraiment. Voilà, cette jubilation du fa dièse majeur, hein, ce côté masculin, affirmé. Ah, je trouve cette fin absolument magnifique, ce cri de joie fortissimo noté par Chopin, fortissimo. Hein, on est parti littéralement, l'écran est devenu presque blanc, hein, vraiment. C'est presque l'ombre. Voilà. Et puis sur cette vibration de l'accord pleinement assumé de fa dièse majeur, vraiment l'octave, la double octave. Hein. Alors, je voudrais vous faire entendre une version absolument géniale de cet impromptu, par sa liberté, par son rubato, par la sonorité, mon Dieu que c'est beau. Vraiment, essayez de partager ce moment avec moi. C'est enregistré en 1936 par Ignaz Friedman, ce grand pianiste dont j'ai parlé déjà ici. Je vous ai fait entendre les romances sans parole de Mendelssohn, les mazurkas de Chopin, il n'y a encore pas si longtemps dans cet atelier. Alors le voici maintenant dans le deuxième impromptu. Ça vaut vraiment la peine, pour paraphraser Jean-Claude Averty il y a déjà quelques temps, à vos cassettes. Mais enfin, maintenant, on ne peut plus le dire à vos cassettes parce qu'on paraît pour un brontosaure. Thank you. Nous venons d'entendre le deuxième impromptu opus 36 de Chopin, interprété en 1936 d'ailleurs, par le grand pianiste Ignaz Friedman. On peut trouver cette interprétation dans un coffret préparé par le label Arbiter, où sont réunis des enregistrements de Friedman, de Tigerman, d'Eisenberger, des grands pianistes de la première moitié du XXe siècle. Et les interprétations de Chopin, de Friedman, elles sont sans égale. C'est d'une telle fluidité, d'un tel charme. Et puis bon, cette manière de jouer rubato, qu'on n'entend plus du tout, on n'ose plus peut-être, mais jouer comme ça, ça paraît tellement naturel. C'est un rubato complètement intégré, et c'est en aucune manière une affectation ou quelque chose d'expressionniste. On sent que ça fait partie de sa pensée et que ça va parfaitement bien avec la musique de Chopin. Ça ne détruit pas du tout le galbe, la ligne, la direction. Bien au contraire, il a une idée très très précise de là où il veut aller, Friedman. Eh bien, il est temps à présent que je remercie mon équipe aujourd'hui, au son Catherine Déréthé et Laure Jung-Dancret, à la sonorisation du studio 106 Célia Dufour, aux lumières Julien Misen et François Ledreff. Le piano a été accordé par Léo Duroy. Barbara Alotto m'a aidé à préparer cette émission que Marie Groux a réalisée. Je vous remercie beaucoup, public du studio 106.